Bienvenue et bon milieu de matinée à vous tous, les Voix de Service Magazine. C'est l'émission à laquelle vous êtes branchés en ce moment même. C'est l'édition du 4 juin déjà, début de mois de juin. Pas très chaud à l'extérieur, mais quand même. On va s'y faire. Mon nom est Claude Blas. Bien heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Et comme tous les lundis, je suis entouré de lecteurs d'articles et de collaborateurs naturellement, en commençant tout de suite en allant rejoindre Franceline Nieuviard. Comment allez-vous ce matin?
Oui, ça va bien, malgré le temps pluvieux, effectivement. Ouais. Mon premier article sera de Yannick Marcil. Je l'ai trouvé, cet article, dans l'itinéraire du 1er juin 2018. Et ça s'intitule « Acheter maintenant, payer plus tard ».
Ah.
Intéressant?
Oui.
Oui. Et en deuxième partie, je vous lirai deux portraits de personnes inspirantes que j'ai trouvées dans écrites par Linda Priestley dans le journal du Bel Âge. La première s'appelle Zinda Lahadj et ça s'intitule « Le bonheur sous un même toit ». Et la deuxième personne est Laurette Légaré et son portrait, c'est une seconde chance.
D'accord, merci. À un peu plus tard, et Monsieur Serge Hamelin.
Oui.
En forme ce matin?
Ah, en forme. Ah, là n'est pas de mots. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous vous mettez des crèmes hydratantes pour le visage? Mm-hmm. Mm-hmm. On en a parlé l'autre fois. Maintenant, il y a des crèmes à éviter, et c'est ce dont je vais vous parler, qui contiennent du BHT, du PEG, du ci et du ça, du pétrolanum, ensuite du phénoxyéthanol, etc., etc. Et ça, c'est à éviter. Je vais vous parler de ce qui est à éviter, OK?
Parfait.
Puis après ça, je vais vous parler des pesticides pour les aliments.
Oh, plutôt négatif ce matin.
Ah oui, mais pour un avenir positif.
D'accord. Merci, M. Hamelin. De mon côté, ben, je vous lirai en deux temps un article que j'ai retrouvé dans le Sélection Reader's Digest. Et il s'intitule « Dormir enfin », en fait, pour en finir avec l'insomnie. Un article bien, bien intéressant. Des petits trucs, en fait, qu'on va retrouver. Alors, on vous revient dans quelques instants avec Franceline. Franceline, premier texte.
Oui, alors Yannick Marcil, donc économiste indépendant, a écrit dans le journal L'Itinéraire ceci. « Achetez maintenant, payez plus tard. L'hiver a été long et froid, le printemps gris, cette météo a raison de vos nerfs et vous déprime. Qu'à cela ne tienne, vous avez vu un super rabais pour un voyage tout inclus dans les Caraïbes. Allez, hop, sur la carte de crédit. On trouvera bien le moyen de rembourser plus tard. » Nos grands-parents, ni nos parents, n'auraient pu imaginer emprunter pour se payer des vacances, aussi méritées soient-elles. Ils auraient trouvé tout autant insensé de recourir au crédit pour acheter des vêtements, des meubles ou de la nourriture. L'hypothèque a longtemps été la seule forme de crédit acceptable. Mais les temps ont bien changé. Le crédit personnel existe depuis longtemps, bien sûr. Dès l'Antiquité grecque et romaine, des prêteurs, plus souvent qu'autrement peu scrupuleux, venaient en aide aux personnes dans le besoin. En Europe, au Moyen Âge, s'est développé aux côtés de ces prêts souvent usuraires le prêt à gage qui existe encore de nos jours. L'Église catholique, inquiète des dérives de ce système, a instauré notamment en France des mondes piété. Il fonctionnait sur le même principe que le prêt à gage, c'est-à-dire achat-revente, hein, mais ne chargeait pas d'intérêt, contraire aux principes moraux de l'Église, bien sûr. Cette très ancienne forme de crédit avait comme unique objectif de dépanner les familles dans le besoin. Il faudra attendre le XXe siècle pour que se développe une toute nouvelle forme de prêt, le crédit à la consommation. Ces premières formes ont été développées pour l'achat d'une automobile par Ford dans l'entre-deux-guerres. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, est apparue la carte de crédit, dans les années 1960 plus précisément. Après une très longue période de développement de l'économie capitaliste, ça n'est qu'à peine depuis une cinquantaine d'années qu'à peu près tout le monde peut avoir accès assez facilement au crédit pour s'acheter à peu près tout et n'importe quoi. J'ai même trouvé sur le site d'un grand magasin d'ameublement la possibilité d'acheter un four à micro-ondes valant 129 $ en étalant les paiements sur 24 mois à raison de 5,38 $ par mois, faut le faire. Utiliser sa carte de crédit pour faire des achats courants n'est pas un problème en soi. si on est en mesure de payer la totalité de son solde à chaque mois et ainsi de ne pas payer d'intérêts exorbitants. Acheter à crédit un four micro-ondes ou un voyage dans le sud, tout simplement parce que c'est plus simple de le faire à crédit, n'est pas problématique. En revanche, si un mauvais coup du destin nous frappe et nous empêche de payer nos mensualités, on est dans le trouble, comme on dit. Et c'est là que revient en force le crédit d'urgence qui existe depuis des siècles, voire des millénaires. Vous avez peut-être vu dans le métro ou sur le web ou entendu à la radio des publicités pour des prêts rapides. Il s'agit de prêts variant de 300$ à 3000$ qu'on accorde dans un délai de 24 heures et qu'il faut rembourser assez rapidement, en 2 à 4 mois. Les taux d'intérêt sont élevés, davantage que ceux d'une carte de crédit, c'est-à-dire autour de 25 à 30%. Le problème, c'est qu'en plus des intérêts élevés, ces entreprises facturent des frais cachés, comme des frais de courtage, pouvant atteindre, comme l'a découvert Union Consommateur, plus de 300$ pour un prêt de 750$. Au final, les frais versés peuvent atteindre l'équivalent de 350% sur une base annuelle. Or, les personnes qui ont recours à ces services doivent, dans la plupart des cas, recevoir un salaire. On a donc des familles qui travaillent, qui sont contraintes, pour plein de raisons, de recourir à ces services dans l'urgence. Est-ce une conséquence de l'accès facile au crédit? En grande partie, malheureusement. Voilà, donc ce texte de Yannick Marcil nous fait réfléchir un peu à tous ces crédits. Et donc, c'était dans le journal Itinéraire du 1er juin 2018.
D'accord, merci beaucoup, Franceline. Alors, faites attention au crédit.
Et je voudrais aussi, j'ai trouvé dans l'itinéraire de ce même journal du 1er juin 2018, quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Je ne sais pas si vous avez connu les émissions, la série documentaire de 13 épisodes sur l'itinérance. C'était sur la chaîne Moi et compagnie, des histoires à vivre. Et il y a eu une première saison. Cette chaîne, on la trouve sur Bell 194 et sur Vidéotron 639, si ça vous intéresse, parce qu'il y a effectivement une deuxième saison. Et je voudrais vous lire un petit article qui m'a intéressée. Donc, Face à la rue, deuxième saison. En avril dernier, Jean-Marie Lapointe a invité l'itinéraire à un visionnement privé de quelques émissions de la deuxième saison de Face à la rue, en compagnie des participants de la première saison, dont notre camelot Roger Perrault. Tout comme la première saison, Face à la rue, saison 2, illustre le monde de l'itinérance avec réalisme et justesse et ne laissera personne indifférent. Les participants de la première mouture y relatent l'impact que la série a eu dans leur vie. Et Roger Perrault raconte à son tour ceci. « Je suis un vendeur dans la rue. Client d'occasion ou régulier, des gens viennent m'acheter le magazine que je leur présente toutes les deux semaines. J'ai eu l'occasion l'an dernier de participer à l'émission Face à la rue et je prends ici quelques minutes de votre temps pour vous faire part de mes impressions de cette expérience terminée. Une de mes surprises suite à l'émission a été le changement d'attitude qu'elle a provoqué. Des gens qui m'achetaient ma revue, mais qui ne m'avaient jamais parlé, se sont arrêtés pour faire un brin de conversation. On m'a questionné sur mon vécu, sur ma vie actuelle, sur mes projets. J'ai été surpris de constater l'intérêt qu'ils pouvaient démontrer une fois la première impression traversée. Plusieurs personnes m'ont fait part du changement de leur perception après m'avoir mieux connu. Certains m'ont offert de l'aide, m'ont parlé de membres de leur famille ou de leurs connaissances aux prises avec les mêmes problèmes. Ils ont souvent avoué être peu conscientisés face à ces réalités. Dans plusieurs cas, une première rencontre a servi à instaurer une relation suivie bénéfique aux deux parties. J'ai été surpris du nombre de personnes qui m'ont utilisé comme fournisseur d'informations sur les services offerts aux sans-abri, aux gens pris dans des situations difficiles, sans voir d'issue possible. D'autres ont découvert par nos échanges le besoin de s'engager, de se mettre à la disposition d'autrui pour utiliser des connaissances, des ressources utiles. D'autres ont noué des amitiés durables. J'ai été surpris du nombre de personnes qui se sont ensuite confiées à moi. J'ai constaté un nombre impressionnant de personnes vivant seules, sans personne avec qui échanger, sans ressources, ou qui passent simplement leur vie à s'ennuyer en attendant. En attendant quoi ? Une écoute, une épaule, une oreille attentive. À l'avenir, ne faites plus que voir, écoutez et partagez. Voilà, donc c'était écrit par Roger Perrault, qui est un camelot sur Beaubien et 28e avenue, pour le citer. Et voilà, c'était dans le journal L'Itinéraire du 1er juin 2018.
Parfait, merci encore une fois. On vous revient dans quelques instants avec Serge. Alors, les crèmes, c'est dangereux. Les produits qui sont à l'intérieur, c'est ça. C'est
elles ne sont pas toutes dangereuses, non. Mais il y en a une gang. Que cache ce charabia?
Voilà.
Essayez de lire les ingrédients derrière, sur l'étiquette, là.
Peut-être une bonne idée.
Et mon Dieu Seigneur, juste essayer de le lire, c'est déjà difficile. Alors, vous allez éviter de les acheter parce que c'est presque pas lisible. Alors, évitez-les. Les recherches et les discussions avec divers experts ont permis de cibler de nombreux ingrédients problématiques. Et pour former cette liste, on s'est basé sur le principe de précaution, voulant qu'en l'absence de certitude scientifique, il est préférable d'éviter les ingrédients dont les effets soulèvent des doutes pour la santé et l'environnement. Et on vous les présente ici dans l'ordre alphabétique. Ce sont des crèmes qu'on se met dans la figure pour paraître un peu plus jeune, peut-être. Alors, il y a des noms que j'aurai beaucoup de difficultés à vous dire. Lancez-vous. Comme le butyl, hydroxytoluène, qu'on appelle BHT. Sa fonction à ce produit, c'est un antioxydant utilisé comme conservateur. Alors, le BHT est un perturbateur endocrinien potentiel qui peut aussi irriter la peau, les yeux et les poumons. Alors, vous mettez ça dans la figure et ça peut vous irriter les poumons. Pas pire, hein? Il est souvent utilisé pour remplacer le BHA, un perturbateur endocrinien classé peut-être cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. Le BHA serait néfaste pour la reproduction selon des études menées sur des animaux. Alors, la réglementation, c'est qu'il n'y a aucune restriction. C'est présent dans les, cosmétiques, dans une concentration d'eau plus 0,1% selon Santé Canada. Et les crèmes qui ont été évaluées au nombre de 387 produits différents, eh bien, on en retrouve 41 dans... Il y en a dans 41 de ces crèmes. Okay? Ensuite, il y a des colorants qu'on met dedans, tu sais, pour des couleurs, qui sont des dérivés du goudron de houille. Ça a l'air bon, hein? Alors ça modifie la couleur de la crème. Et le risque, ça les classe comme étant cancérigènes, ils seraient aussi allergisants. Alors, la réglementation, c'est l'usage d'une vingtaine de ces colorants est restreint au Canada. Et 53 des 387 produits vérifiés en contiennent. Ensuite, le PEG. C'est le polyéthylénéglycol. Je l'ai eu dans un coup, hein, c'est bon. Alors sa fonction, là, c'est un nettoyant épaississant et excipient d'humidité. Ça veut dire qu'il aide à conserver l'humidité. C'est pour pas que la peau sèche, là. Alors, en plus d'être critiqué pour être polluant, les procédés de fabrication des PEG, de composés à base de pétrole difficilement biodégradables, peuvent provoquer des résidus de 1,4 dioxane et d'oxyde d'éthylène, deux substances reconnues comme cancérigènes. Et certains PEG sont irritants lorsqu'ils sont utilisés en grande quantité et d'autres peuvent accroître l'absorption par la peau des autres composés que renferment les crèmes. Hey. Éthanolamine. Ça équilibre le pH d'une formule et ajoute une texture crémeuse au produit. Quel est le risque? Alors, Santé Canada interdit le DEA et le DIPA, mais pas les ingrédients qui en contiennent comme la cocamide, la cocamide DIPA, la triatolnolamine, et autres acides gras renfermant de l'éthanolamine. Ces composés sont associés à des problèmes de foie, ainsi qu'à des démangeaisons de la peau et des yeux. Combinés au nitrite, ils peuvent produire des nitrosamines, des composés chimiques dont certains sont cancérigènes. La concentration d'éthanolamine est limitée à 5 % dans les crèmes. Et les crèmes qui ont été évaluées, ben, il y en a 54 qui en contiennent. La formaldéhyde. Avez-vous déjà entendu parler de la formaldéhyde à un moment donné? Ça, sa fonction, là, c'est d'être conservateur. Alors, le risque. Ces ingrédients libèrent lentement de petites quantités de formaldéhyde, un agent de conservation. À dose élevée, le formaldéhyde serait cancérigène pour l'humain lorsqu'il est inhalé pendant de longues périodes. Et Santé Canada l'estime sécuritaire en petite concentration sur la peau. Chez les personnes sensibles, il peut irriter. 24 de ces produits en contiennent. Parabène. Alors maintenant, on voit de plus en plus de crèmes où c'est écrit sans parabène. Hein? C'est sans gluten pour la nourriture et sans parabène pour les crèmes. Conservation. Ça, c'est sa fonction. Hein? C'est supposé conserver. Alors, les parabènes sont des perturbateurs endocriniens susceptibles d'agir sur le système hormonal. Ceux dits à longue chaîne, selon leur structure moléculaire, sont considérés comme à risque élevé par le groupe américain de défense de l'environnement et font l'objet de restrictions et d'interdictions en Europe. Les parabènes dits à courte chaîne sont considérés comme sans danger pour la santé par la Commission européenne et à risque modéré par l'Union européenne. Par précaution, nous n'avons pas fait de distinction entre les différents parabènes et nous avons classé ces ingrédients parmi ceux à éviter. Santé Canada ne fait pas non plus de distinction entre les différents types de parabènes. Le ministère indique sur son site que ces substances ont un effet légèrement semblable à celui des œstrogènes sur les animaux, mais que rien ne démontre un lien de cause à effet entre les parabènes et le cancer du sein. Bon. Alors, voilà, ça c'est pour le parabène. Maintenant, le pétrolatum et pétroleum distillate, ou eau. Ça emprisonne l'humidité dans la peau pour l'assouplir. Et quel est le risque? Eh bien, ça peut contenir des impuretés, dont des hydrocarbures aromatiques polycycliques, classés cancérigènes par le CIRC. La gelée de pétrole ou pétrolatum peut aussi causer des allergies et des irritations cutanées. 204 des 387 produits ont du pétrolatum. Alors, si vous lisez derrière, là, on le remarque, c'est le pétrolatum, ouais, souvent. Hein. Et un très populaire aussi, c'est le phénoxyéthanol. J'ai regardé ma crème pour le soleil, là, hein? Il y en avait dedans. OK, bon. Alors, en plus de provoquer de l'eczéma et de l'urticaire, il est jugé toxique pour le sang et le foie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'organisme français estime que le composé est sûr pour les adultes, mais suggère des limites pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, voilà. Donc, le phénoxyéthanol.
Alors, ça nous fait un peu peur, ces produits dans les crèmes.
Alors donc, écoutez, il faut se renseigner. Heureusement, ils ne sont pas présents dans toutes les crèmes. Non. Et les crèmes Protégez-vous a suggéré la semaine dernière, eh bien, il n'y en a pas de ça.
Il n'y en a pas. Bon.
C'est bon?
Parfait. C'est une bonne nouvelle, quand même.
Oui.
Alors, est-ce que vous dormez bien, vous deux? Ouais,
oui,
ben ouais, pas maintenant, là.
Vous savez qu'il y a 66 % de la population qui ne dorment pas les heures régulières, entre 7 et 9 heures par nuit. Alors, je vous en parle après la pause musicale.
Oui, ben oui. Heaven holds a place for those who pray.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Vers la fin des années 60 avec Simon & Garfunkel, la pièce Mrs. Robinson qu'on a pu notamment découvrir dans l'excellent film Le Lauréat avec Dustin Hoffman.
Alors voilà, merci. Sélection du Reader's Digest. J'ai trouvé un texte qui nous parle de, qui nous titre en fait « Dormir enfin et pour en finir avec l'insomnie ». Donc c'est quelques trucs, quelques petites choses qui dit que bien dormir est un des grands plaisirs de la vie, dit-on. C'est vrai, hein?
Normalement, c'est un dormeux.
Oui. Et on dit que cela améliore l'espérance de vie même.
Oui.
Et avec le temps, rend presque aussi heureux que de gagner à la loterie, imaginez. Mmh. Alors, les quelques conseils qui suivent devraient vous assurer de bonnes journées d'éveil et des nuits bien heureuses. Alors, voici le premier conseil. S'accorder du sommeil. Que vous le déploriez ou non, c'est un fait. Un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Mmh. Et nous sommes près de 66 %, un chiffre colossal, dit-on, à ne pas dormir ce nombre d'heures régulièrement. En plus de la fatigue du lendemain, la privation répétée de sommeil favorise la dépression, l'obésité, l'AVC aussi, la crise cardiaque, imaginez, l'Alzheimer et le cancer. Dans les pays développés, l'épidémie silencieuse du manque de sommeil est le plus grand défi de santé publique auquel nous ayons à faire face au 21e siècle, affirme le Dr Matthew Walker de l'Université de Californie à Berkeley dans son plus récent ouvrage. Il s'appelle « Why We Sleep ». Je suis de ces scientifiques qui encouragent les médecins à prescrire du sommeil. Aussi simple que ça. Pas des pilules, du sommeil. Mm-hmm. Selon le Dr Walker, adopter un programme et s'y tenir est la clé d'une ordonnance efficace. Le corps profitera naturellement d'un rythme régulier de sommeil et de veille. Prévoir de se coucher à une heure précise réduit la tentation d'occuper son temps à autre chose. Il est recommandé également d'éviter autant que faire se peut tout remède susceptible d'interférer avec le sommeil, comme les médicaments pour le cœur, entre autres, la tension artérielle aussi, médicaments pour ça, et l'asthme, ou encore contre le rhume. Il y a des produits qui sont quand même assez, assez solides pour le rhume, c'est ça?
Et
ça,
en plus, ne pas mettre de crème contenant du parabène pour la nuit, là.
Alors, si vous pensez rester éveillé avec ces médicaments, c'est tout à fait vrai, et parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. On dit aussi, deuxième conseil, dormir ailleurs. Si vous êtes arrivé de vous retourner pendant des heures dans votre lit d'hôtel, hein, c'est sans doute dû à la mise en veille de votre cerveau. On dit que l'imagerie cérébrale a montré qu'à la manière des dauphins, des pigeons et d'autres animaux, l'être humain qui se trouve dans un milieu inconnu voit l'un des deux hémisphères de son cerveau dormir moins que l'autre. Si cette réaction présentait un avantage pour nos ancêtres menacés par les prédateurs dans la nature, elle en est moins utile pour les voyageurs modernes aujourd'hui. Hein. Pour réduire le risque d'insomnie, restez dans le même hôtel tout au long de votre séjour et essayez de réserver des chambres similaires dans une même chaîne où que vous alliez. Et troisième conseil, favorisez les rêves. Oui, ben oui. On a longtemps cru que le rêve ne survenait que durant le sommeil paradoxal. En fait, la phase des mouvements oculaires rapides, la dernière du cycle. Nous savons aujourd'hui que des brides peuvent se manifester lors des phases antérieures, mais le sommeil paradoxal favorise les rêves les plus détaillés, vivants et sensibles. Si le manque de sommeil est préjudiciable, le manque de sommeil paradoxal est également inquiétant. D'après une évaluation publiée en 2017 dans les Annales of the New York Academy of Science, ceux qui rêvent moins sont davantage sujets aux troubles de l'humeur, entre autres crises de colère récurrentes ou extrême irritabilité persistante, voilà, à une hypersensibilité à la douleur, à la maladie de Parkinson, à l'anxiété, à la démarche et aux hallucinations imaginées. Étrangement, rêver nourrit le sens de la réalité à l'état de veille. Si l'alcool favorise un endormissement plus rapide, il compromet la phase de rêve en perturbant le sommeil paradoxal. Imaginez. Alors, je vous reviendrai dans la deuxième partie de l'émission avec le reste du texte, parce qu'il reste encore quelques conseils quand même pour essayer de bien dormir. Mais je vous rappelle, 66% de la population ne dort pas bien au Québec. C'est quand même assez impressionnant. Alors voilà, on vous revient dans quelques instants.
qu'on vient d'entendre, Élodie et ses muses, et la pièce Clopin Clopin.
Merci beaucoup. Franceline, on y va avec le deuxième texte.
Oui, alors là, je vais vous lire deux portraits de femmes. La première, c'est Zina Lahad, qui est intitulé, son texte est intitulé « Le bonheur sous un même toit ». Chaque année, à titre de responsable du programme « Les habitations partagées » à Montréal, Zina Lahad jumelle une cinquantaine de jeunes étudiants ou nouveaux arrivants avec des aînés. L'objectif, participer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Outre le partage des frais et des tâches domestiques, ainsi que l'échange intergénérationnel et interculturel qui découle de cette cohabitation, ça fait de la compagnie de part et d'autre, indique l'intervenante sociale. En plus de trouver un étudiant pour chaque aîné qui manifeste le désir d'ouvrir les portes de sa maison ou de son logement, Madame Lahad doit s'assurer que le courant passe entre les deux. Les personnes intéressées par ce type de cohabitation doivent être ouvertes et motivées, en plus de partager des valeurs similaires, dit-elle. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Pour que l'exercice soit le plus enrichissant et positif possible, l'intervenante a même conçu un guide de réflexion afin de soutenir les cohabitants dans la vie de tous les jours. Cela permet une meilleure communication interculturelle. Dans le cadre de ce programme, la cohabitation, qui dure un minimum de 6 mois, fonctionne généralement bien et il n'est pas rare que le bail liant un aîné et un étudiant soit renouvelé. En moyenne, les personnes restent ensemble de 12 à 18 mois. Ensuite, l'étudiant s'en va parce que ses études sont terminées, s'en va pour se marier ou tout simplement pour passer à une autre étape de sa vie. Dans bien des cas, on se quitte avec un pincement au cœur. Les personnes ont créé des liens et il arrive qu'elles se côtoient, s'écrivent ou font des sorties par la suite. Et bien des aînés n'hésitent pas à répéter l'expérience. Certains sont là depuis le lancement du programme en 2000. Pour les aînés, la formule est gagnante, à tel point que selon Madame Lahad, on devrait s'en inspirer pour l'avenir. Un grand nombre de femmes à la retraite ou sur le point de l'être me disent qu'elles aimeraient bien partager une résidence avec des étudiantes, un endroit où elles pourraient manger et faire la lessive dans les salles communes, puis se retirer chacune dans ses appartements privés. On le fait en Europe, pourquoi pas ici? Ça prend juste un peu d'imagination et d'innovation. Devant chaque jumelage réussi, l'intervenante se sent pleine d'espoir. Ça me permet de croire que nous sommes capables de nous entraider et de partager. Il faut juste faire taire les préjugés et apprendre à se connaître. Alors, à propos des habitations partagées, une information, il s'agit donc de l'un des services offerts par La Maisonnée, un organisme qui aide les personnes à s'intégrer de façon harmonieuse dans la population québécoise. Donc pour plus d'informations à ce sujet, on peut consulter le site lamaisonnée.org ou composer le téléphone suivant 514-271-3533. Voilà, donc à propos d'habitations partagées, Zina Lahad. Et maintenant, un deuxième portrait, c'est celui de Laurette Légaré, et ça s'intitule « Une seconde chance ». Reconnaissante du soutien reçu au moment où elle en avait grand besoin, Laurette Légaré n'hésite pas aujourd'hui à donner au suivant. La dynamique nonagénaire veille sans relâche au bien-être des aînés isolés et démunis de sa communauté. Donc, voilà cette rencontre qu'a eue Linda Priestley avec cette madame Laurette Légaré. On dirait que le temps a oublié Laurette Légaré. Comme si j'avais été congelée afin d'être mieux préservée, lance-t-elle à la blague. Née il y a 93 ans dans le faubourg Amelas, l'arrondissement de Ville-Marie, la Montréalaise, à l'esprit vif, se souvient des moindres détails de son enfance au sein d'une famille unie et travaillante. « J'étais entourée d'amour et je n'ai manqué de rien », se rappelle la petite princesse, comme l'appelait son papa, dévoué. Par la suite, son mariage avec un homme alcoolique et parfois agressif, puis son divorce à 52 ans, lui laisse cependant des souvenirs amers. Je me suis retrouvée dès lors seule et démunie. Pendant plus de 20 ans, Laurette s'acharne à refaire sa vie, tout en subvenant du mieux qu'elle peut à ses besoins. À 75 ans, à bout d'espoir, elle contacte les petits frères, dont une connaissance lui a parlé. Son histoire prend alors un autre tournant. Des bénévoles que j'appelais mes petits anges se sont occupés de moi, toujours avec délicatesse, comme s'ils devinaient ce dont j'avais besoin. Ils m'ont sorti de chez moi et m'ont prodigué soutien et compassion. Grâce à l'organisme, j'ai pu assister à des dîners de fête comme Noël et Pâques et à des activités en tout genre comme des sorties au théâtre et des après-midi dansants. J'ai aussi profité de quelques fins de semaine dans un chalet à Oka et même d'un voyage en France que j'avais gagné dans un tirage au sort organisé par les petits frères. Je me suis également liée d'amitié avec d'autres femmes dans la même situation que moi. Les vieilles amies qu'on nous appelle, je ne suis pas très friande du mot vieille, dit-elle. Mais bon, reconnaissante pour cette seconde vie, la plus belle que j'ai jamais eue, la vaillante nonagénaire participe désormais à la promotion des petits frères. J'agis en quelque sorte comme leur ambassadrice, déclare-t-elle fièrement. Déterminée par ailleurs à soutenir les plus vieux que moi, dans son quartier, je vous rappelle qu'elle a 93 ans, hein, elle siège depuis 20 ans au comité du Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie et aide à promouvoir des programmes visant à encourager une vie active chez les aînés. Elle est particulièrement engagée au sein du programme Fridge Amherst, dont la mission est de donner. Voilà un verbe qui me fait tellement plaisir, donc de donner des denrées périssables aux personnes démunies. Même si les déplacements en quadriporteur s'avèrent parfois difficiles, Laurette a la bougeotte. Je suis incapable de rester à ne rien faire pendant que des gens autour de moi souffrent de solitude ou sont victimes d'abus. On doit s'entraider et faire preuve de compassion, les uns envers les autres. C'est ce qui m'a sauvée, à mon tour, d'assister ceux qui sont dans le besoin. Alors, je voudrais juste signaler que Laurette Légaré parle donc des petits frères qui sont donc présents dans différentes régions du Québec. Et pour information, on peut faire le 1-866-627-8653 ou avoir le site internet petitfrères.ca. Voilà, donc, c'était deux portraits de femmes écrites par Linda Priestley dans le journal du Bel Âge de mai et de juin 2018.
Quel beau geste quand même de s'occuper des autres. Hein, une belle mission aussi. Alors, il faut le faire à tous les jours. C'est bien, bien important. Alors voilà, on vous revient dans quelques instants avec Serge, qui nous parle de pesticides. Alors, Serge, c'est d'actualité. Hein? Vous nous parlez que de choses d'actualité, finalement.
Ah, bon, on n'arrête pas. Ouais. Hein? Alors, je suis dans la rue, protégez-vous. Hein? On se protège des choses à se protéger. Hein?
Oui.
Bon, alors, on mange à tous les jours. Hein? Mm-hmm. Oh, mon Dieu. Alors, pesticides au menu. Eh oui, les preuves entourant la toxicité des pesticides dans l'alimentation ne cessent de s'accumuler. Mais ces produits continuent d'être utilisés en agriculture. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Julie Roy a écrit cet article dans la revue Protégez-vous. Il y a environ 10 ans, Patricia Bellil a amorcé un virage alimentaire. Je me suis mise à lire sur la provenance des aliments et la façon dont les fruits et légumes étaient cultivés, explique cet employé fédéral de 44 ans. Préoccupée par les conditions de travail des producteurs agricoles, elle a commencé par consommer des produits équitables avant de se tourner vers l'agriculture biologique. Je savais que les fermiers bio utilisaient peu ou pas de pesticides. Je me disais que si c'était mieux pour la santé des agriculteurs, ça devait l'être aussi pour moi. Et chaque fois que c'est possible, elle privilégie les aliments qui n'ont pas été mis en contact avec ces produits chimiques. Des chercheurs font le lien entre cancer et pesticides. Plus je lis sur le sujet, plus je souhaite les éviter, dit-elle. C'est que la liste de maladies potentiellement liées aux pesticides est inquiétante. Problèmes neurologiques chez les aînés, comme la maladie de Parkinson, troubles respiratoires, infertilité et malformations fœtales, cancer, etc. Patricia Bellil n'est pas la seule à craindre la présence de ces produits dans son assiette. Les résidus de pesticides et d'antibiotiques dans l'alimentation figurent parmi les plus importantes préoccupations bioalimentaires des Québécois, indique un sondage Léger commandé en 2016 par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Au pays, l'enquête canadienne sur les mesures de la santé parue en 2013 révélait que 86 % des Canadiens présentaient des traces de pesticides dans leur urine en 2009 et 2011. En février 2018, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques annonçait que, dorénavant, une prescription agronomique devra être émise par un agronome certifié lorsqu'un agriculteur voudra utiliser un des 5 pesticides particulièrement toxiques suivants. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les lire. C'est comme dans des crèmes, là. Hein? Il y a l'atrazine, ça va. Le chlorapyrifos et 3 néonicotinoïdes. Oh, je l'ai eu. La clothianidine et l'imidaclopride et la thiémétoxame. Je les ai eus, mon Dieu. Alors, j'espère que vous vous en souvenez. Alors, par cette approche, le ministère dit vouloir freiner le recours systématique à ces produits et s'assurer qu'ils sont utilisés seulement lorsque c'est nécessaire et selon la quantité prescrite. Avec ces nouvelles mesures, y a-t-il encore lieu de s'inquiéter? Ah ah! Alors, si certaines municipalités interdisent les pesticides, d'autres permettent encore à leurs résidents de les utiliser à des fins domestiques pour avoir un gazon plus vert ou de beaux légumes du jardin, par exemple. Québec interdit cependant de nombreux pesticides pour les gazons et la quasi-totalité ne peuvent être utilisés sur les terrains des garderies et des écoles primaires et secondaires. Les agriculteurs, eux, les emploient sous forme d'herbicides, de fongicides et d'insecticides pour minimiser les effets des insectes, des mauvaises herbes et des maladies sur leurs récoltes et ainsi assurer le bon rendement de leur production. Or, certains des pesticides sont fréquemment montrés du doigt par des experts en raison de leurs effets toxiques. Parmi eux, le glyphosate, utilisé entre autres dans les cultures de maïs et de soja. C'est de loin le pesticide le plus répandu partout dans le monde, rapporte la revue scientifique Environmental Sciences Europe. Bien qu'il soit considéré comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, une agence créée par l'Organisation mondiale de la santé, le Canada a renouvelé son homologation qui en permet l'usage jusqu'en 2032. Bon. Alors, du glyphosate a en outre été trouvé dans le tiers des aliments testés en 2015 par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais toujours sous les limites fixées. Bon, les néonicotinoïdes, des insecticides qui sont utilisés, notamment pour traiter les semences de maïs et de soja, inquiètent aussi les chercheurs et les groupes environnementaux. En 2012, des apiculteurs de plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec, ont noté une augmentation importante des décès dans leurs ruchers situés à proximité de champs traités avec ces insecticides. Et sans les abeilles, la production alimentaire chuterait de manière draconienne, rappelle Nadine Bachand, chargée de projets spécialisés en pesticides et en produits toxiques pour Équiterre. Leur travail de pollinisation permet la reproduction de près de 70 % des plantes cultivées dans le monde. Alors, l'abeille est très importante. En mars 2017, grâce aux actions d'apiculteurs canadiens et d'autres acteurs environnementaux, le gouvernement fédéral a accepté de réétudier les répercussions des néonicotinoïdes sur l'environnement. Bon, alors, est-ce qu'on va s'en sortir un jour de ces histoires de pesticides? Est-ce que cultiver bio, c'est la solution? Consommer des fruits et des légumes biologiques est l'une des solutions proposées afin de réduire notre exposition aux pesticides. Et certaines recherches portent à croire que l'agriculture biologique serait presque aussi rentable pour les producteurs que celle qui se veut conventionnelle. C'est du moins ce qu'a démontré l'équipe de l'Institut Rodale aux États-Unis. L'organisme à but non lucratif mène depuis 37 ans une étude comparative entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique pour vérifier l'aspect de la rentabilité des trois cultures principales aux États-Unis, soit le maïs, le blé et le soja. Et le résultat, après 5 ans seulement, les champs bio de l'Institut Rodale présentaient un taux de rendement équivalent ou supérieur, selon les cultures, à ceux de l'agriculture conventionnelle. Bon.
Bonne nouvelle.
Ben, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Mm-hmm. Franchement, hein? Le fermier Frédéric Verville en a aussi fait l'expérience. En 2015, le trentenaire a racheté, avec quelques associés, la ferme du Coq à l'âne, où il s'approvisionnait lui-même en fruits et légumes bio. Située à Bury, une petite ville à une 50aine de kilomètres de Sherbrooke, cette ferme propose 100aine de variétés de fruits, de légumes et de fines herbes, tous certifiés biologiques. Et pour moi, c'était important de pratiquer une agriculture saine, autant pour la terre que pour les humains, explique-t-il. Le fait de produire plusieurs sortes d'aliments lui permet de mieux gérer ses pertes. Et l'an dernier, mes panais ont été affectés par la maladie. Bah, cela représentait une perte d'environ 2 % de ma culture totale. Et dans une monoculture, les effets des maladies et des insectes sont dévastateurs. Diversifier le type d'aliments qu'on fait pousser est une bonne solution pour éviter l'utilisation de pesticides, dit-il. Et pour certains consommateurs, comme Patricia Bellil, le choix de manger bio vise à réduire leur exposition aux produits chimiques. Et il faut toutefois savoir que l'agriculture biologique n'est pas exempte de pesticides. Non, non, non. Les normes biologiques permettent l'utilisation de biopesticides, des substances chimiques ou des agents parasitaires issus de sources naturelles comme des bactéries, des champignons, des virus, des plantes, des animaux et des minéraux qui se dégradent. Alors, voyez-vous, donc, il y a de l'espoir.
Ben oui, ben il y a quand même de l'espoir.
Ben
un
oui,
peu,
il y a de l'espoir.
Mais on a beaucoup de pesticides un peu partout. Je vous reviens dans quelques instants avec ma deuxième partie de texte. Retrouver le sommeil.
Ah!
Alors, je vous rappelle le titre dans la sélection du Reader's Digest qui disait « Dormir enfin pour en finir avec l'insomnie ». Alors, il y avait quelques trucs. Ouais. Et je poursuis avec mes trucs, d'ailleurs. Et on dit « Partager la chambre avec un animal de compagnie ». Le faites-vous?
Oui!
Ah! Alors, je vais vous dire ce qu'on dit dans le Reader's Digest. Faut-il éviter son chien dans la chambre à coucher? C'est une question. Des chercheurs de la clinique Mayo se sont penchés sur la question en équipant des volontaires et leurs compagnons d'accéléromètres pendant une semaine. La plupart des quadrupèdes ont joué ou se sont promenés pendant que leur maître dormait et cela n'a guère affecté le sommeil de ces derniers à condition d'avoir interdit le lit à l'animal. Une couverture ou un panier au sol est un bon compromis si vous souhaitez profiter de sa présence réconfortante sans être dérangé. Bon, on sait que certaines personnes laisse l'animal coucher dans le lit. Hein?
Ah ben oui, et puis le chien bouge pas. Hein?
Ah ben tant mieux.
Ah, du tout.
Autre petit truc, reconnaître une apnée obstructive du sommeil. Eh bien, ce truc du sommeil assez fréquent peut être grave. Les muscles du fond de la gorge se détendent trop durant le sommeil et bloquent la respiration. L'oxygénation sanguine chute, mettant le système cardiovasculaire à rude épreuve et le problème n'est pas traité et les risques de problèmes cardiaques augmenteraient à ce moment-là. Les personnes touchées se réveillent spontanément assez longtemps pour ouvrir leur voie respiratoire, même si elles l'oublient de temps en temps. Alors c'est très, très dangereux. C'est souvent le partenaire qui remarque les ronflements, les sons guttureux ou étouffés, précise le docteur Michel Gelb, spécialiste des troubles respiratoires du sommeil à New York. Pour ceux qui dorment seuls, une application pour téléphone comme les différentes applications qu'on peut retrouver sur les différents téléphones permet de surveiller justement les sons. Il dit « Sinon, ajoute le médecin, des signes comme la lassitude au réveil, les sautes d'humeur, la difficulté à se concentrer, la somnolence diurne et les problèmes de mémoire peuvent vous alerter aussi en même temps. » Dormir à deux, est-ce que c'est une bonne idée? Ben, et ils disent que cela a des avantages et des inconvénients.
Ça dépend de l'autre, ça veut dire.
Et comme il est courant de ronfler, se retourner et tirer la couverture à soi, mieux vaut dormir seul si on mesure la qualité du repos à l'aide de critères objectifs. La durée du sommeil lent, profond, une phase indéterminante du sommeil non paradoxal pour la consolidation de la mémoire, en est un. Cela étant, on a tendance à être plus satisfait du sommeil quand on peut se blottir contre un partenaire aimant. Cela libère de l'autocine, une hormone du bien-être qui réduit le stress et favorise l'attachement. Voici deux façons de réduire les inconvénients d'une nuit à deux. Ils disent « Choisissez un matelas assez grand. » Donc, king size, hein, c'est ce qu'on dit, le terme anglais. Ouais.
Ou queen.
Ou queen size. Si votre partenaire bouge beaucoup, procurez-vous un matelas en mousse de mémoire de forme, vous sentirez moins ses mouvements. Et deuxième, prenez soin de votre relation. Un mauvais sommeil traduit souvent des difficultés relationnelles. Ah. Et inversement, améliorer l'un agira sur l'autre, naturellement. Les avantages surprenants d'un sommeil suffisant, le savez-vous? On dit que dormir assez ne prévient pas seulement les effets négatifs du manque de sommeil. Il y a quantité d'avantages à dormir en moyenne 8 heures par nuit. Les plus récentes recherches prouvent que bien dormir peut améliorer la capacité d'interpréter les expressions faciales.
Tout à fait.
Stimuler le système immunitaire.
En effet.
Diminuer les fringales de sucreries.
Ah, absolument.
Alors, ça s'attache à vous, Serge.
Ah, non.
Soulager la douleur chronique. Favoriser le raisonnement dans l'évaluation du risque et réduire l'inflammation. Et en finalité, dormez-vous trop, vous pensez? Ben, on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Prendre l'habitude de dormir plus de 9 heures consécutives peut, avec le temps, provoquer des maux de tête, imaginez,
oui.
Des maux de dos,
oui.
De l'obésité et du diabète. Ces complications peuvent provenir d'autres causes, entre autres la dépression, l'abus d'alcool. C'est des exemples, en fait, qu'on donne. Plutôt que du surcroît de sommeil, dans tous les cas, parlez-en à votre médecin si jamais vous dormez trop pour ne pas avoir cette petite problématique. Alors voilà, c'était un article que j'ai retrouvé dans la sélection du Reader's Digest. On vous revient avec quelques brèves.
Alors, quelques brèves. Je vais vous reparler de l'itinéraire, qui est bien plus qu'un magazine. En effet, je ne sais pas si vous savez, mais l'itinéraire, c'est aussi 3750 paniers de nourriture offerts gratuitement aux Camelots par année. C'est 7500 repas gratuits distribués aux personnes itinérantes ou à risque grâce au concept unique de la carte repas solidaire. C'est aussi 4476 titres de transport individuel offerts par année et 168 certificats mensuels à tarif ordinaire offerts. C'est encore 67 200 $ économisés par les Camelots par année en logement grâce aux interventions de l'itinéraire. C'est 75 rapports d'impôts réalisés annuellement. Et il y a aussi donc le café L'Itinéraire, là au coin de Sainte-Catherine et de Lorimier, je crois, qui est un milieu de vie où les participants ont accès à des repas à prix modique. Ah. Voilà, donc L'Itinéraire, c'est bien plus qu'un magazine.
Et je vais rester en fait dans la même veine du sommeil. En quoi l'âge peut-il perturber notre sommeil, savez-vous? Ben, il ne faut pas s'attendre à dormir aussi bien à 65 ans qu'à 20 ans. À cet âge, le sommeil est plus court, moins profond, et on devient plus sensible aux perturbations comme le stress ou les bruits aussi. Il faut donc porter une plus grande attention à la qualité de son sommeil quand on est un peu plus âgé. Eh bien voilà, c'est tout pour l'émission. J'aimerais remercier Serge et Franceline de cette belle collaboration encore une fois aujourd'hui. Jean-François Laliberté qui mène toujours cette émission d'une main de maître, il me dit non de l'autre côté, mais c'est vrai. Et Jean-Sébastien, Jean-François, je le dis tout le temps, Jean-François. Pourquoi je dis Jean-François?
Ben, c'est un beau nom,
Jean-François. Oui, c'est un beau nom aussi. Il y a peut-être un visage de Jean-François.
Peut-être.
Mon nom est Claude Blas, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, profitez-en bien. Reposez-vous.
On va dormir.